Merci d'être avec nous. On est en osmose. Et bah tiens, on va aller au centre aujourd'hui. Pourquoi pas? Puis on y retournera le samedi 9 et le dimanche 10 avril parce qu'il s'y passe des choses sympas. Et pour en parler, ben j'ai Mr. Grégory Jung.
Tout à fait.
Bonjour Grégory.
Bonjour Serge, un plaisir d'être là à comment chaque passage. C'est vrai qu'on se voit souvent en ce moment. Hein,
après bah, c'est la saison.
C'est ça, c'est la saison. Après le salon Vision de ce week-end, de ce dimanche, qui fut un franc succès,
oui.
Eh bien, on est de nouveau là dans tes studios pour faire la promotion de notre seconde édition des guidances de voyance et médiumnité thérapeutique.
Voilà, bah on est encore dans le même thème.
On est dans le même thème dans que, le lors de l'édition de janvier, voilà.
Avec un côté thérapeutique quand même.
Oui, alors on a tenu effectivement à pouvoir mettre à disposition toutes les compétences pour aider tout un chacun à préciser là où il se trouve aujourd'hui, éclairer un chemin et pouvoir eh bien projeter en conscience et beaucoup plus clairement les prochaines étapes d'évolution, voilà.
Concrètement, il y a combien 3 6 8
8 intervenants. Donc Gilles Gréard, hein, en voyance et tarologie, Marie Debar, en médiumnité voyance, Grégory Jung moi-même, donc
en astrologie karmique.
En astrologie karmique, hein, qui est plutôt une approche rationalisée de ces choses, mais l'important d'avoir cette compétence intégrée parmi tous ces médiums, c'est de pouvoir ensuite aller, on va dire, confirmer et avoir cette autre approche finalement. Hein. Donc l'astrologie karmique, elle part des, elle objective en fait une expérience vécue, un schéma de vie, une conjoncture, voilà.
Qui j'étais, qui je deviens.
Qui j'étais surtout. Et c'est vrai que dans le contexte de ce salon, à ce moment-là,
que peux-je devenir peut-être
compléter effectivement ses points de départ et puis aider les participants à mieux projeter sur demain. Voilà.
Carole Adrey,
voilà, qui vient souvent nous rendre visite, qui est de Grenoble, mais qui est, j'ai l'impression qu'elle vit bientôt ici, et je pense que je vais lui suggérer un déménagement.
Oui, parce que le grand écart, au bout d'un moment...
Ah bah voilà, c'est ça, Grenoble, elle aime nos contrées plus chaudes.
Mais puis nous, on aime bien la voir, parce que c'est quelqu'un qui rayonne quand même.
C'est un soleil, je connais Carole depuis des années, et je peux vous dire qu'elle, sa bonne humeur et son énergie ne se sont jamais démenties, quoi qu'elle ait choisi comme application et comme activité. Point de lien avec les autres, tout à fait.
Ok, en tous les cas, elle nous fait de la psycho-énergétique, elle le fera donc samedi 9 et dimanche 10 au centre O. On a aussi Vishara Rosadora, alors je l'ai connue parce qu'à l'époque, et elle le fait toujours, les tentes rouges pour les femmes.
Oui, tout à fait, sur le féminin sacré.
Oui, sur le féminin sacré.
Tout à fait.
Mais là, ce serait un petit peu autre chose. Hein.
C'est autre chose, mais c'est sa compétence première. Hein. Vishara est une grande tarologue, très portée sur le soin. C'est une personne qui est vraiment contenante, aimante et qui a une grande, grande expérience de la tarologie et qui est thérapeute chez nous au Centre O également. Donc, elle est à la maison. Hein. Elle est, donc elle vous reçoit et elle complète justement notre équipe de thérapeutes.
D'accord. Elle est au Centre O aussi? Elle fait partie de...
Elle est au Centre O également. Super. Elle anime des ateliers de chant et danse du monde, expression corporelle. Hein. Vishara est une ancienne danseuse. Donc, il y a vraiment cet axe personnel plus cette ouverture sur le sensible.
Estelle, alors je ne sais pas comment on dit, Estelle M. Elf.
Alors, c'est Estelle Manichet qui présente la marque Elf et des bijoux. Bon, un titre original, un nom de marque original. Donc, on comprend bien qu'il s'agit de bijoux thérapeutique
à mon avis,
sur la base
des
bijoux. Oui, tout à fait. Enfin, oui, en lithothérapie. On tient sur ces événements toujours à avoir des accessoires qui sont connexes à l'activité des thérapeutes qui sont présents, qui sont une continuation, puisqu'on sait très bien que la lithothérapie est un accompagnant du changement, hein, dans sa capacité de transformation énergétique et d'apport justement de ces énergies nécessaires selon les cristaux qui sont choisis.
On a Marie-Annonciate Géras.
Tout à fait, donc Marie-Annonciate Géras, on ne la présente plus.
Ça dépend, nous on la voit souvent,
puisqu'elle était
encore dimanche avec nous, avec Vision, mais voilà, c'est quand même médium.
Une autre grande médium de la région, hein, et j'en ai encore un autre à côté de moi, Lionel, dont on parle.
On y arrive.
Mais effectivement, Annonciate nous fait le plaisir de faire ces événements avec nous, c'est vraiment comme à la maison. Hein. Mmh. Voilà, donc venez nous retrouver dans cette.
Elle plaît beaucoup, Marie.
Ah oui, elle plaît beaucoup.
Elle a son public. Elle a ses fans, entre guillemets.
Elle a ses amis aussi. Voilà. Hein. Il y a des personnes qui se déplacent uniquement par amitié pour
D'accord.
la voir. Voilà.
Donc vous aurez l'occasion de la découvrir le week-end du 9 et du 10 avril au Centre O. Et puis nous avons Lionel Brouxeau qui est avec nous. Bonjour Lionel.
Bonjour.
On a mis du temps, mais comme on le disait, hein, Grégory est un peu bavard.
Il n'y a pas de souci. Il y a une présentation à mettre en place.
Alors vous serez là juste samedi. Hein,
oui.
En tant que médium psychogénéalogue,
généalogiste.
Généalogiste, oui. Mmh. C'est quoi?
Alors, en fait, en tant que médium, je peux ressentir justement sur plusieurs générations les traumas, les blocages, les schémas de répétition transmis consciemment ou non par nos chers ancêtres, aussi bien côté paternel que maternel. Et la psychogénéalogie, bien, c'est cela, c'est découvrir tout ce qui a pu se passer au niveau de nos ancêtres, et les traumas, les blocages, les chocs, l'abandon, les abus, et tout ce qui fait que la personne aujourd'hui est bloquée, répète les mêmes schémas, les mêmes rencontres, les mêmes peurs, et lui évite d'être vraiment à sa place, et de prendre sa place et d'apprendre à dire non.
Des héritages dont on se passerait bien, quoi.
Oui,
en quelque sorte.
Oui, quand même. Oui.
Bah oui.
C'est donc assez lourd.
Vous arrivez, grâce à votre don de médium, à remonter comme ça dans le temps,
sur plusieurs générations,
et trouver où sont les nœuds, les problèmes, les blocages.
Oui. Même parfois ce qui a pu se passer intra-utérin aussi, des chocs émotionnels qu'on puisse produire à ce moment-là, et qui fait que la personne se sent abandonnée, se sent dans le déni.
Et qu'elle ne peut pas en avoir conscience, puisqu'elle n'en a pas
du tout
vécu.
Et même la mère n'en a pas conscience, puisque, un dernier exemple par exemple, je demande à cette personne ce qui s'est passé à 3 mois de grossesse et 6 mois de grossesse. Elle me dit, mais rien du tout, ma mère a fait une grossesse
normale.
Oui, tout s'est bien passé. Et puis j'insiste un peu, elle me dit, ah oui, c'est vrai qu'à 3 mois de grossesse, ma mère a perdu sa mère.
Ah bah oui.
Le truc normal, hein,
pendant
une grossesse, hein, au niveau du choc, on est bien. Et je dis, à 6 mois, ah oui, mais maintenant que je me rappelle, son mari est mort, enfin mon grand-père est mort de chagrin 3 mois après. Du coup, la naissance...
Ah bah oui, 3 mois, 6 mois...
C'était pas festif, voilà. Et puis là, cette jeune femme s'est sentie abandonnée dès le départ, parce que la mère ne s'est jamais remise de ces deux décès à 3 mois d'intervalle.
Puis avant de naître, elle est déjà plus grand-parent, quoi.
C'est ça.
En plus. Donc,
déjà,
il y a quand
en arrivant,
quelque chose qui...
Et puis pendant la grossesse, quoi. En plus, donc le choc, la transmission. Et puis sa mère a fait des dépressions sur dépressions, et elle s'est sentie complètement abandonnée de sa mère.
Alors c'est une question discrète, mais vous voyez comment? Ce sont des entités, des guides qui vous disent, ou c'est vous qui ressentez?
C'est que je le ressens dans le corps, en fait. Je ressens le trauma dans le corps, voilà, je j'ai l'image aussi.
Et pour définir 3 mois ou 6 mois?
Ça vient spontanément comme ça, ça je le gère pas. Je ressens un choc. Je ressens quelque chose de brutal qui a pu se produire, et voilà. Et puis j'insiste parce que c'est vraiment, enfin voilà,
oui, dans ces cas-là vous avez bien fait, puisque la personne n'en avait pas du tout conscience, et encore heureux qu'elle se rappelle que,
oui, parce que
trois mois sa grand-mère est décédée,
tout s'est bien passé, et puis ça lui est revenu à la mémoire, effectivement. Oui. Et il y a plein de choses comme ça, où c'est sur des mémoires aussi, de où les gens ont des capacités, des possibilités, mais ne s'en sont jamais servis, parce qu'il ne faut surtout pas, oulala, ne fais pas ça. Et un exemple que je raconte dans mon livre, je suis remonté jusqu'au Moyen-Âge quand même.
Ah oui?
Oui, au Moyen-Âge, où j'avais la personne dans mon cabinet face à moi, toute recroquevillée sur elle-même. Et puis, et là, je lui dis, mais je vois une séquence au Moyen-Âge, des chariots avec des femmes trimballées dedans en haillons, leur jeter des choses dessus. J'avais les odeurs, la boue, enfin tout.
Ah oui, des odeurs aussi.
Ah carrément, oui, oui.
Ah oui, les odeurs.
Et puis là, je vois une place, je décris une place où il y a des bûchers, et là, la cliente face à moi se met à pleurer avec une voix de petite fille, et elle dit, mais c'est ma maman qu'on va brûler, moi je peux pas l'aider, parce que c'est une grosse dame qui me cache derrière son tablier, parce que si je vais aider ma maman, moi je vais être brûlée aussi. Et en fait, il y avait une mémoire cellulaire, depuis le Moyen-Âge, qui fait que toute cette lignée de femmes n'a jamais pu se servir de ses dons et de ses capacités, sinon elle allait être brûlée. Écartelé,
donc il y a un blocage qui se reproduit au fil des générations.
C'est impressionnant.
Sur femme après femme, puisque c'est...
Mais femme après femme, là, jusqu'au Moyen-Âge.
Mais alors là, comment elle a fait? Elle était en état d'hypnose pour voir ça, tout d'un coup?
Ah non, mais moi, j'ai vu ça, si vous voulez, et inconsciemment, ça agit sur elle, et elle s'est mise à pleurer.
Elle a eu un flash, elle aussi, quoi, du coup.
Elle a vu la scène, en même temps, quoi.
Mais oui, puisqu'elle descend d'une sorcière, elle a peut-être un don aussi.
Mais bien sûr qu'elle a un don.
Était coincée,
et aujourd'hui, après cela, ça a découvert ses capacités, son potentiel. Elle s'est mise à faire des soins, à avoir des flashs, des ressentis, et elle a enfin pris sa place.
Ah ben là, on voit que tout d'un coup, votre rôle est primordial voilà. dans la
et
vie
moi,
de
ça
cette
me touche
personne.
Beaucoup tout ça parce qu'il y a j'ai plein de personnes sur les abus que ces femmes ont pu subir aussi. Ça, je le ressens très fort. Beaucoup de femmes, enfin beaucoup de personnes aussi, où ça m'a beaucoup surpris, ne se rappellent pas du tout de leur petite enfance.
Ah oui.
Ça, c'est un.
Et là, je dis là.
Quand on vit un drame, souvent on ferme, c'est ça la mémoire.
C'est pas qu'on ferme, c'est qu'il y a un disjoncteur, heureusement, qui sauve la personne.
Ouais.
Parce que des viols, quand il est enfant, quand il est abusé, etc., quand il est enfant, le corps s'en rappelle, mais la personne, non. Il y a un disjoncteur qui fait que. Heureusement, ça protège la personne, tout ça.
Ça explique aussi pourquoi, des fois, c'est 30 ans après qu'on porte plainte, ou comme on voit en ce moment, là, et on se dit pourquoi ils attendent si longtemps.
Alors ceux-là, la plupart du temps, s'en rappellent quand même, mais l'ont complètement caché, verrouillé pour ne pas souffrir, alors qu'elles souffrent encore plus. Quoi.
Oui, c'est ça.
Alors qu'elles ont passé leur vie à souffrir.
Donc, et en plus, ça conditionne le comportement. Donc, notre libre arbitre n'est plus libre du tout, là, puisque tout est conditionné par
quelque
chose.
Et le rejet par l'homme, le rejet avec l'homme, etc., la colère, la frustration, enfin, toutes ces, tout ce que ça peut se générer. Et en débloquant, en déverrouillant toutes ces mémoires, mais la personne se sent plus libre et a compris pourquoi elle a agi comme ça pendant toutes ces années. Et ça, c'est, enfin, moi, ça n'a pas de prix, quoi. C'est merveilleux parce que la personne se libère de, et puis, combien de femmes ont des maladies, des scléroses en plaques, des nomioses, ostéoporose, etc. Parce que, en fait, c'est tout le corps qui se bloque.
Fibromyalgie, tout ça.
Fibromyalgie, bah alors ça, c'est.
Et vous croyez qu'il y a un lien direct entre.
Alors là, j'en suis convaincu. D'accord. Et de toute façon, je l'ai vu au fur et à mesure des séances que j'ai pu proposer.
Ah oui.
Tout ce que ça a généré derrière, la prise de conscience.
Et vous assistez à une rémission, par exemple, de.
Oui, c'est arrivé.
Ouais. Parce que tout d'un coup, on va mieux et qu'il n'y a plus de raison que cette maladie soit là en train de nous empêcher d'avancer, par exemple.
Et inconsciemment, ça libère au niveau du corps, au niveau des tensions. Comme moi, avant de découvrir tout cet univers, j'ai passé ma vie à être bloqué dans le corps de partout.
Ah oui?
J'avais des torticolis, des sciatiques, des lombalgies, le bassin qui vrillait, des blocages au niveau de la poitrine, des colites. Enfin, j'avais tout ça dans le corps parce que j'étais tendu, j'étais en colère, j'étais.
Et vous ne faisiez pas ce que vous deviez faire, c'est-à-dire transmettre ou passer.
J'étais pas du tout là-dedans.
D'accord.
C'est une dépression qui a eu lieu en 2008, en fait.
Mmh.
Où là, suite à du harcèlement au travail. Hein.
Une sorte de burn-out, en fait.
C'est un euphémisme, oui. Ça a duré quelques mois. Mmh. Bon, moi, je prends pas de traitement allopathique, donc je me suis débrouillé autrement. Et c'est l'hypnose, en fait, qui m'a sorti de cette dépression en 2008. La grande surprise de la thérapeute qui, quand je suis venu la voir, je marchais plié en deux comme ça.
Ben oui.
Et j'étais bloqué dans mon corps. Tous les matins, c'était 30 à 50 minutes pour sortir du lit et marcher plié en deux comme ça chez moi. Donc, c'était un grand moment.
Ah oui.
Ça a été compliqué. Mais bon, je résistais. Je ne tomberai pas. Et voilà. Et puis, c'est mon ostéo de l'époque que j'allais voir à Bernay-Fontaine. Donc là, je mettais à peu près 3 heures de préparation psychologique pour arriver à monter dans ma voiture et essayer de conduire et qu'il n'y avait pas, il fallait pas qu'il y ait de voiture devant moi, ce qui était très compliqué. Bref, et puis voilà, et c'est lui qui m'envoyait vers cet hypnothérapeute et à la deuxième séance, je suis sorti du fauteuil, j'étais moulé dans le fauteuil, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vous ai raconté? Ça vous regarde plus.
Vous sors pas là.
Petit moment de honte est vite passé.
Ah oui, d'accord.
Et là,
le secret professionnel, de toute façon, ça reste entre vous et elle.
Voilà. Et puis, non, mais même, elle me l'a pas dit du tout, quoi.
Ah oui.
Tant mieux.
Vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez raconté.
Ah, pas du tout. J'étais complètement endormi,
D'accord.
Et puis, je suis rentré chez moi, je ne sais pas comment, je me suis réveillé le lendemain et quelques jours plus tard, une amie très cartésienne m'invite à dîner. Et en sortant du resto, je lui dis, Cathy, j'ai des choses à te dire, mais je sais pas ce que c'est. Et là, elle me regarde, ça va, oui, il faut que je te parle, mais je ne sais pas de quoi. Et on s'assied à une terrasse de café. Et là, je lui raconte comme un film où je découvre des grands appartements, des très grands, des gens, des prénoms, des noms, des grandes propriétés, des très grandes propriétés, mais je décris vraiment les intérieurs aussi. J'écris tout ça, les personnes avec leurs prénoms, leur situation. Et le lendemain, je me réveille chez moi, habillé sur mon lit, et là, je dis, qu'est-ce que je fais là, habillé sur mon lit, moi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'appelle au téléphone, et je lui dis, mais on a fait quoi hier? On a bu? Ou elle me dit, non, on a bu que de l'eau, pourquoi? Et là, je lui explique. Et je me lève, et dans ma pièce, sur ma table, il y avait plein de pages écrites, je fais, mais c'est quoi ça encore? Et elle me demande ce qui se passe, je lui explique qu'il y avait plein de pages écrites sur ma table, je lui fais la lecture, et tout ce que j'avais écrit en écriture automatique, en fait, c'est tout ce que je lui avais raconté la veille.
Impressionnant quand même.
Et ça a commencé comme ça. Et là, comme j'étais épuisé, je suis tombé sur mon lit comme ça, voilà. Et ça, c'était en avril 2008. Et tout ce que j'ai écrit là, dans le détail, en avril 2008, tout ce que j'ai écrit là, eh bien, je l'ai vécu physiquement et concrètement sur toute l'année 2009.
Ah oui, donc...
tous les lieux, les gens, les prénoms...
Les fameuses maisons...
Tout,
C'était une
projection de ma vie.
Projection de ta vie sur
projection de ma vie sur une année.
D'accord, sur une année.
Sur une année.
D'accord.
Et tout ça, je l'ai vécu de janvier 2009 à fin novembre 2009. Tout,
après, difficile de se dire qu'il n'existe pas quelque chose.
Voilà. Je rencontrais des personnes, je disais, tu as une maison comme ça, avec une déco comme ça dedans, très surpris, mais oui, mais tu verras bien. Mmh, et génial. J'ai été invité dans ce lieu, et effectivement, il manquait rien, aucun détail. Mmh. Les tableaux, les couleurs des pièces, le portail, l'allée de platane, enfin, tout y était, quoi.
Super. Voilà. Et du coup, ben, vous avez décidé de partager votre don et d'en faire profiter.
C'est pas venu tout de suite, ça a cheminé. Et en fait, dans ce parcours-là, comme j'explique dans mon livre, eh bien, dans une soirée, dans un restaurant très chic sur Paris, nous étions 10 à table, un grand restaurant, et puis je voyais tout sur les gens autour de la table, et ma voisine qui se racontait une vie très chic dans le 16e.
Bien sûr.
Et tout ce qui va bien. J'entendais mensonge. Et là, je la regarde à côté et puis là, je lui dis, mais c'est marrant, toi, t'as été élevé sur une péniche et t'as été à l'école à côté.
Oups.
Ah bah là, j'ai complètement clashé le cliché du 16e.
Hein. Oui, bah oui.
Là, vous me tranchez la jugulaire avec le couteau à poisson.
Oh mon Dieu.
Bref, les autres m'ont retenu.
Difficile
pas ce point-là,
de mentir,
mais pas loin.
À Lionel Bruxo.
Et puis le lendemain, une des filles de ce groupe m'invite à boire le café. Et puis elle me dit, avant de boire le café, déjà pour la soirée d'hier, bon, cette fille ne t'aime plus du tout. Hein.
Ah oui.
Bah, je dis, tu sais, je la connaissais pas avant-hier, ça va pas changer ma vie. Et quand on ne demande rien, eh bien, ferme ta gueule.
Ouais.
Mais moi, je n'y comprenais rien puisque ça m'était
tombé dessus comme
ça. Je n'avais aucun filtre.
C'est une novice à l'époque.
Ouais, bah, complètement. Hein. Complètement. J'y comprenais rien du tout. Mais c'était précis ce que je racontais. Et cette fille m'a aidé en me faisant travailler. Et en fait, elle travaillait dans l'immobilier de luxe sur Paris. Et tous les appartements, les grands appartements, etc., qu'elle allait visiter, eh bien, quelques jours avant, elle m'appelait, je lui détaillais dans le détail ce qu'il y avait dans l'appartement.
C'est pour ça que vous voyez aussi des appartements. Et,
cette capacité de me projeter dans les lieux de vie des personnes, quand je les ai en consultation, par exemple, où je peux ressentir dans la maison
ce qu'il y a autour d'eux.
Hein. Ce qu'il y a autour d'eux, ou quand ça ne va pas dans la maison, quand il y a des ondes négatives, quand la maison est chargée énergétiquement. S'il y a de l'eau qui passe sous la maison, ça, j'arrive à me projeter. D'accord. Aussi.
Est-ce donc, que ça veut...
Tout ce qui est en rapport avec l'énergie de la personne peut être perçu et vu.
Ah, moi, je le perçois, je le ressens.
Très bien.
Est-ce que ça vous pourrait pas trop la vie
Parce que
de ressentir toutes ces choses, des fois, ça doit être... On comprend,
non? Non, j'ai appris à canaliser aujourd'hui que quand je suis en séance, je suis en séance. Mm-hmm. Quand je ne suis pas en séance, c'est la vie.
Donc vous fermez, tu fermes,
oui.
C'est ça,
Ah oui, j'ai appris. Enfin bon, parfois je ressens des choses, mais ça ne me pourrit pas du tout la vie. C'est magique, je remercie tous les jours.
Oui. C'est vrai que c'est un don fantastique, mais ça peut être...
Non, ce n'est pas du tout encombrant.
Prenant ou lourd, voilà.
Non, ce n'est pas du tout encombrant.
Vous êtes médium, donc je vois... Vous avez sorti un livre, hein, d'ailleurs, dont on parlera samedi 9 avril à 19h, puisque vous faites une conférence et une dédicace. Le livre s'appelle « Médium, quand l'au-delà nous parle ». Et justement, ces personnes qui vous parlent de l'au-delà, elles viennent, elles vous disent « j'ai un message pour un tel » ou c'est quand vous êtes avec quelqu'un que là, quelqu'un dit « c'est mon petit-fils » ou « c'est
voilà,
mon
c'est plutôt
neveu,
quand je suis en contact avec une personne, ça ne vient pas spontanément comme j'ai d'autres copains ou amis qui reçoivent des messages en permanence et qui le transmettent après.
Il y en a qui
disent
ça, oui. Voilà.
Oui, c'est assez fréquent, mais moi, non, c'est quand je suis en contact avec la personne où là, je peux ressentir. Et au tout début, quand j'ai découvert cet univers, parce que je leur parle là-haut et je leur ai dit, bon, vous me faites faire ce que vous voulez, mais moi, je ne veux pas voir les morts. Hein. Parce qu'au début, je flippais un petit peu. J'ai l'impression de voir les zombies comme dans Thriller. Je me dis, non, ça, c'est pas trop ma tasse de thé.
Sixième sens, on va dire plus que Thriller. Non
sixième sens.
Oui, au sixième sens aussi. Oui. C'est un film magnifique, d'ailleurs. Ouais. Hein. Mais encore que là, on les voit physiquement.
Bah oui, c'est pour ça.
C'est autre chose. Et puis un jour, je reçois un monsieur dans mon cabinet. Il me dit, vous ne voyez pas les défunts vous... Ah non, non. Alors, ce que vous voulez, mais ça, on passera à autre chose. Et puis d'un seul coup, j'ai fait, mais elle est rigolote, votre maman, avec sa petite blouse à fleurs, avec les petites manches, elle a les cheveux comme ça, elle ondule de la tête, et puis alors elle parle avec un accent, puis avec ses mains comme ça. Ben, il me dit, c'est ma mère, ça. Alors attendez, elle vous dit ça et ça. Ah, ben, je dis, en fait, si c'est comme ça, ça va, c'est cool alors. Et puis voilà, il s'est venu comme ça.
D'accord, vous ne les voyez pas, mais vous les voyez quand même.
Voilà, et parfois je ne les décris pas, mais... Mm. mais c'est parfois très précis. Et ces défunts arrivent à se montrer aussi parfois à un âge précis qui va vraiment interpeller la personne. Mmh. C'est arrivé chez la tante de mon amie, la première fois je vais chez elle, une grande maison, elle était veuve depuis 27 ans, et puis nous avait laissé sa chambre, et en sortant de la salle de bain, en rentrant dans la chambre, il y avait deux Voltaire, une grande armoire, mmh. Et je dis à mon amie, mais c'est qui Dédé ? Pardon ? Je dis, oui, c'est qui Dédé ? Ben, mon oncle. Ah d'accord, parce que c'est lui qui est dans le fauteuil, là, alors... Il est en costume très élégant, gris, la moustache très fine, le cheveu gominé en arrière, très élégante, chaussures italiennes pointues, les jambes croisées avec une petite pochette. Ah non, tu fais erreur, c'est pas lui. Si, il a 35 ans, c'est quand il a rencontré ta tante.
Mmh. Ah oui.
À cette époque-là, je l'ai pas connu.
Ah bah oui.
Donc, mais comment je vais dire ça à ma tante? Donc, il nous attendait pour le petit déjeuner sur la terrasse, et puis on arrive et dis-moi, Jackie, comment était Dédé quand tu l'as rencontré? Alors là, elle me regarde immédiatement, les yeux un petit peu humides, là. Et pourquoi? Ben parce qu'il était dans la chambre, dans le Voltaire qui est derrière la porte. Et là, elle se met à être choquée parce qu'elle me dit, oui, c'était le sien, mais je l'ai mis derrière, comme il était un peu usé, comme ça, personne ne le voit. J'ai dit, il est habillé comme ça, je lui décris. Et là, elle se met à pleurer, elle me dit, c'est exactement comme ça qu'il est habillé le jour où je l'ai rencontré.
D'accord.
Et il avait cet âge-là.
Et rassurez-nous, il nous espionne pas quand même, nos défunts, là? Parce qu'il s'assoit dans le fauteuil de Voltaire, dans la chambre, et pour assister à des choses
non, alors,
un peu intimes quand même.
Des choses un peu intimes, d'autant qu'elle était veuve, donc et jamais remariée. Mais quand il s'agit de choses intimes, il s'éloigne.
Bon, ils ont une certaine pudeur.
Oui, oui, quand
merci.
Même. Merci. Ils nous respectent
ça
aussi.
Ça nous rassure.
Hein. Ils nous respectent aussi.
Dans votre livre, vous racontez votre histoire?
Oui, je raconte mon parcours.
Mmh.
Je raconte mon parcours, un petit peu comment tout cela est arrivé. Ce premier salon, comment je l'ai découvert aussi, parce que en février 2012, donc alors jusqu'à fin 2011, je travaillais dans le meuble, en fait, je gagnais bien ma vie. Après cette dépression, c'était aussi dans le meuble, ça. J'ai retrouvé un autre job dans une grande enseigne avignonnaise, où je gagnais bien ma vie. Et fin 2011, j'ai dit, mais je peux plus travailler là-dedans, faut que j'arrête, faut que je démissionne. Donc j'ai fait flipper tout mon entourage qui s'est dit,
c'est pas évident.
Mais t'as vu ce que tu gagnes et tout, oui, mais je peux plus faire ça, il faut que j'arrête. Je ne savais pas du tout quoi faire, ni ce que j'allais faire. J'ai démissionné. Cette amie très cartésienne qui était toujours dans mon entourage me dit, mais tu peux pas rester sans rien faire. Enfin, moi, je travaille dans un nouveau magasin. Viens me rejoindre. Je dis, Cathy, je veux plus faire ça. Je veux plus travailler dans le meuble. Mais quoi alors? Je ne sais pas. Donc, elle m'a fait rentrer dans ce magasin. Et là, je n'arrivais plus à travailler. Je bégayais devant les gens. Je me trompais dans les mots de commande. Et cette patronne était la copie conforme, la même, mais la même en couleur que celle avec qui j'avais fait ma dépression. Ça aurait pu être sa sœur jumelle.
Oula.
Les mêmes mots, les mêmes rejets, les mêmes. Et à cette amie qui bossait avec moi dans l'autre magasin aussi, j'ai dit, mais écoute, là, me parler, c'est la même que l'autre.
Si ça, c'est pas un signe.
Oui, voilà. toi, tu exagères toujours. Elle me dit, écoute, je te laisse 3 jours, je te dis plus rien, tu l'écoutes me parler. Au bout d'une journée et demie, elle vient vers moi, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait à celle-là? J'ai dit, peut-être, qu'est-ce que j'ai pas fait non plus à celle-là? Et puis là, je rencontre un gars, on parle des pierres, des ressentis, des médiums. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi il me parle de tout ça? Je ne comprenais pas. Bon. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très sensible aux pierres. Dès que je prenais ça dans ma main, j'avais des messages. Et puis, j'étais à ce moment-là chez mon ostéo, c'était en février 2012, et je parle de ce gars. Et au moment où je parle de ce gars, ce même gars m'envoie un message, là aussi les signes, en me disant, ça serait bien que tu viennes au salon de la Grande Motte, au salon de la voyance à la Grande Motte. J'ai dit, mon ostéo, que je vais fou dans un salon de la voyance, moi. Il dit, tu y vas ou je te rebloque le dos, t'es médium. Mais je sais même pas de quoi tu me parles.
Il est bien, cet ostéo.
Oui. Très bien. Et puis, donc je suis allé à ce salon de la voyance, mais alors sans aucune conviction. J'ai dit, tiens, il fait beau, je vais aller me promener sur la plage après. Bon, j'ai jamais vu le sable. Hein. Au moment où elle m'a testé, à un moment donné, elle me dit, mais tu sais, moi, je suis pas médium. Je n'étais pas médium, toi, et ton cabinet qui est là-bas, et les soins que tu fais, ton père qui était médium, qui avait fait. Bref, je lui décris un peu toute sa vie. Et là, je la vois sourire, je dis, pourquoi tu souris? Ben parce qu'en fait, tu me racontes plein de choses que je ne connaissais pas de moi. Bon, elle me l'a fait un peu à l'envers, bien sûr.
D'accord.
Et là, le soir, elle m'invitait à dîner avec eux, avec toute la troupe du salon, et puis toute l'équipe plutôt, parce que la troupe, toute l'équipe du salon, et puis, elle m'appelait tous les jours, je dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Quoi, cette secte-là, un peu
bon. On cherche, oui.
Et ça, c'était en février 2012. Et en avril 2012, j'ai dit à mon patron, je dis, écoute, voilà, tu vois bien que j'y arrive plus, j'arrive plus à faire de chiffres. Voilà, tu me donnes un supplément chaque mois pour m'aider un peu, mais là, non, stop, on va arrêter là. Tu vas me faire une rupture conventionnelle. Non, parce que toi, je sais que tu fais de l'argent. Donc j'envisage de d'ouvrir un magasin pour toi. Mmh. Ah non, mais je dis oublie
tout. Ah, c'est de l'argent dans le magasin.
Dans le magasin, oui. Et je dis, mais oublie tout, ne dépense pas de l'argent pour rien, je ne veux plus travailler comme ça. Et là, il a refusé, j'ai dit d'accord. Et là, je ne sais pas, j'étais bien guidé, je les remercie tous les jours. Je me suis installé dans un canapé d'angle, en tenant des accoudoirs comme ça, en croisant les jambes devant lui. Il me dit, tu fais quoi ? Ben aujourd'hui, je vais essayer ce canapé-là, il me convient bien. Demain, j'essaierai l'autre là-bas. Après-demain, l'autre là-bas. Enfin, tant que je n'ai pas mes papiers, je ne fais plus rien. Jamais je refuserai faire
ça. On dirait la pub des gens qui ont gagné au loto.
C'est ça. Mais j'ai gagné au loto.
Mieux que le loto, d'ailleurs.
Et au bout de 3 jours, eh ben, il m'a amené mes papiers. Voilà, enfin, quelques jours, il m'a amené mes papiers. J'ai terminé de travailler le 7 avril 2012 et j'ai commencé le premier salon en avril 2012.
Eh ben on peut dire que pour vous 2012 aurait été vraiment la charnière, la fin d'un monde et le début d'un autre monde.
Et là ça fait 10 ans que je suis installé.
Ben c'est super. Vous allez nous raconter tout ça samedi 9 avril à 19h pendant la conférence ou
en partie,
puis
oui.
Présenter un peu le livre et
présenter
vous ferez aussi des
Je vais faire des consultations dans la journée.
Dans la journée, oui.
Voilà. Oui, donc si on peut prendre rendez-vous d'ores et déjà avec Lionel, qui ne sera là que la journée du samedi. Donc ne traînez point, le planning se remplit vite. Lionel sera avec nous exclusivement la journée du 9 avril et il animera cette conférence psychogénéalogie et contact défunt à partir de 19h.
Parfait.
Ça passe par toi, les réservations.
Tout à fait. Hein, je centralise
les réservations. On réserve comment? On a fait le 06-05?
Voilà, le 06-05-73-77-21 ou en envoyant un email à evenement@centre-o.fr.
Parce que tout cela se passe au centre O, qui est alors au Pontet.
Au Pontet, au 1420 bis, route de Saint-Saturnin au Pontet, donc entre le rond-point de Réal-Panier et le Leclerc, direction Saint-Saturnin.
Voilà. C'est très facile à trouver. C'est plus facile en disant rond-point de Réal-Panier parce que
c'est vrai.
Le Pontet, on l'imagine de l'autre côté.
J'ai fini par prendre cette option, hein, rond-point de Réal-Panier, tout le monde visualise.
Rendez-vous donc pour cette deuxième édition, ça a l'air bien sympa. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et à découvrir.
C'est ça. Encouragé par le succès de la première édition qui s'est tenue en janvier, où on a eu un bon remplissage malgré le fait que la période n'était pas très dynamique.
C'est clair.
Mais là, au niveau du printemps, c'est le moins qu'on puisse dire, mais avec ce printemps qui refleurit, eh bien, plein de nouvelles idées. Et puis on voit quand un événement doit se faire, quand il se fait très facilement et tous les intrants participent à sa petite mixture, on se dit... Il devait avoir lieu. Voilà, donc on vous attend nombreux et nombreuses.
Eh bien, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir au Centre O, route de Saint-Saturnin au Pontet, comme on vient de le dire. Ce sera le 9 et le 10 avril, de 10h à 19h. Mais attention, si vous voulez rencontrer Lionel Brouxeau, ce sera que le samedi 9.
Voilà, sur rendez-vous.
Toute la journée, là, hein, parce que même le soir à 19h, il y a la conférence, donc on peut rester avec vous jusqu'à 21h, si on veut.
C'est ça.
Sur rendez-vous, bien sûr.
C'est ça, sur rendez-vous. Hein. Y compris pour les autres intervenants.
Voilà. Donc n'hésitez pas à appeler le 06 05 73 77 21. Grégory Jung, merci beaucoup.
Avec plaisir, Serge.
Lionel Brouxeau, merci.
Merci à vous.
C'est passionnant ce que vous racontez.
Merci, Lionel.
Je conseille
merci
à nos amis d'aller vous voir parce que je pense qu'il y a un bon moment et des belles choses à découvrir.
Et voilà. Le livre est toujours en vente dans tout le réseau librairie, la FNAC, Cultura. Alors il n'est peut-être plus en rayon maintenant, mais sur commande et sur tous les réseaux internet, enfin sur tous les réseaux libraires.
D'accord. Merci à vous deux.
Merci.
Merci. Au revoir.